Il suffit d'ouvrir l'œil, même s'il est encore quelque peu en sommeil le matin quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, le phénomène est assez perceptible. Et oui, vous n'êtes pas seul dans votre solitude matinale, dans votre véhicule. Près de 9 Français sur 10 font comme vous et pratiquent l'autosolisme. Pourtant, on estime qu'en France, si nous étions quasiment toutes et tous, au moins 2 dans nos véhicules, cela représenterait environ l'équivalent de 38 millions de véhicules électriques sur nos routes, sans compter le temps passé en moins dans les bouchons. Une voiture, ça roule comme un bus. Ça peut transporter plusieurs personnes comme un bus. Alors pourquoi ne pas considérer la voiture comme un transport public ? C'est le pari de la société Ecov qui opère 55 lignes de covoiturage en milieu urbain et rural dans toute la France. Comment est bâti ce modèle ? Comment cela fonctionne-t-il ? Et arrive-t-il à trouver son public ? Pour le savoir, nous avons rencontré Justine Grandjean et Loïs Homo, respectivement développeuses de communauté et chefs de projet chez Ecov. Allez, en voiture, mais pas en solo s'il vous plaît. Bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Normand pour la suite de cette deuxième saison. Aujourd'hui, on reçoit Justine Grandjean, Loïs Homo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le cadre des activités, on va consulter donc de nouveaux acteurs du covoiturage. Il s'agit de Covoitici, donc c'est la société Ecov que vous représentez donc toutes les deux. Première question que je pose à tous mes invités, vous savez, c'est « Where is Brian ?»
Eh bien, on se trouve aujourd'hui à l'Absinthe, un bar de Rouen, qui a été choisi notamment parce qu'on a déjà organisé, j'ai organisé un afterwork ici avec la communauté des covoitureurs Covoitici. C'est un bar très charmant.
Et alors justement, deuxième question toute simple, qu'est-ce que Covoitici pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Alors Covoitici, c'est une application mobile qui est gratuite et c'est aussi des lignes de covoiturage. Il y en a 2 en Normandie, on pourra y revenir. Le principe des lignes de covoiturage Covoitici, c'est qu'on a installé des arrêts de covoiturage à des endroits où il y a un flux de conducteurs qui est important. Ces conducteurs sont principalement seuls dans leur voiture et donc on va essayer de les faire covoiturer. Et donc on a installé des arrêts et grâce à cette application mobile, on va mettre en relation en temps réel des conducteurs qui souhaitent partager leur siège libre avec des passagers qui, eux, vont se mettre en attente aux arrêts de covoiturage et vont se mettre en relation en temps réel sur l'application.
Ça veut dire que quand tu dis en temps réel, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de réservation. C'est-à-dire qu'on ouvre l'application. Donc, admettons, voilà, je télécharge l'application Covoitici, j'ouvre l'application, je souhaite réserver un covoiturage qui est sur la ligne, on va me mettre en relation avec quelqu'un, c'est ça ?
Exactement. C'est le critère principal de l'application, notamment par rapport à ce qu'on peut connaître du covoiturage, qui est plutôt le covoiturage planifié. On va se mettre d'accord en amont avec un conducteur, sur un lieu de rendez-vous, un horaire de rendez-vous, etc. Et c'est aussi, du coup, l'intérêt principal des lignes de covoiturage, parce qu'on va ici s'attaquer à des trajets du quotidien. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident de partir toujours le matin à la même heure. Donc, l'intérêt voilà, de Covoitici, c'est qu'on n'a pas besoin de prévoir à l'avance et qu'on peut décider le jour même, à l'instant T, de covoiturer, que ce soit en tant que conducteur ou passager.
Et actuellement, en Normandie, combien il y a de lignes qui sont disponibles actuellement en service ?
Alors, aujourd'hui, on a 2 lignes de covoiturage en Normandie. Donc, en fait, elles sont autour de Rouen. Ce sont les 2 premières lignes de la région. Donc, on a une ligne au nord, entre Barentin et Rouen, et une ligne au sud, entre Rouen et Val-de-Reuil. Voilà.
Pourquoi plus particulièrement ces zones-là plutôt que d'autres zones ? Je pense notamment aux prolongations entre Rouen et Dreux, notamment, qui sont des endroits très, très fréquentés où, parce que moi, je suis très franc, donc je dis des choses très franches, c'est-à-dire que la SNCF est très, très chère. Hein, c'est 12 euros quand on a plus de 26 ans pour faire le trajet entre Rouen et Évreux par le train. Pourquoi pas prolonger de Rouen à Évreux ? Pourquoi ces lignes-là en particulier ?
Alors, c'est une très bonne question. En principe, on est soit mis en relation, soit contacté par les collectivités locales qui sont intéressées pour travailler, pour répondre à leurs besoins de mobilité. Et il s'avère qu'on a été mis en contact avec la métropole de Rouen. On a commencé des études de covoiturabilité, comme on les appelle, pour analyser un peu le potentiel de covoiturage sur le territoire. Et donc, on a analysé un certain nombre d'axes sur lesquels il y a du potentiel pour créer des lignes. Et donc, l'axe que tu mentionnes, justement, entre Rouen et Évreux, est un axe identifié, qui pour l'instant n'a pas été déployé, mais qui le sera peut-être prochainement. En tout cas, voilà, souvent, ce qui fait que certains axes vont être priorisés, c'est soit par leur très fort potentiel, oui. On va choisir d'en déployer une ligne d'abord plutôt qu'une autre, et parfois, c'est tout simplement politique, et c'est des calendriers de décisions, d'ententes territoriales, puisque là, en fait, on est sur des bassins de mobilité qui engagent plusieurs collectivités, et donc qui doivent se mettre d'accord dans un calendrier de déploiement.
Mais alors justement, quel est votre modèle économique? C'est-à-dire comment Ecov, en fait, gagne de l'argent? Puisqu'on est d'accord que le passager ne paye pas son trajet. C'est gratuit pour le passager.
Exactement. Aujourd'hui, c'est gratuit pour le passager. Et quant au modèle économique d'Ecov, en fait, notre modèle économique se rapproche un petit peu du modèle économique d'un transporteur de transport en commun. Sauf que nous, on est un opérateur de covoiturage. Et donc, en fait, la collectivité, nous, on se rémunère. Donc, les clients, ce sont les collectivités. Et elles payent, en fait, des coûts d'investissement. Donc, notamment pour tout ce qui est nos arrêts, le développement d'une application mobile, etc. Et ensuite, elles vont payer des frais, des coûts de fonctionnement annuels de chacune des lignes de covoiturage, un petit peu de la même manière qu'elles payent des coûts de fonctionnement annuels pour l'exploitation des lignes de bus. En fait, le modèle économique est sensiblement le même.
Et justement, tu parles en gros de lignes de bus, mais ça fonctionne un peu de la même façon. Quand on voit on rappellera où se situent les arrêts, mais quand on voit un peu les arrêts covoit ici, ça fonctionne un peu comme un arrêt de bus finalement.
Exactement. En fait, le passager se rend à un arrêt de covoiturage, fait sa demande. Sa demande va s'afficher à la fois sur le smartphone du conducteur qui est en chemin, mais aussi sur des panneaux lumineux qui sont situés en amont, mais aussi au niveau de l'arrêt. Donc, en fait, ça va s'afficher un passager pour Rouen, par exemple, pour un passager qui attendrait à Barentin. Et le passager va attendre 7 minutes en moyenne, puisque c'est le temps d'attente moyen aujourd'hui sur nos lignes rouennaises. Ouais. Et ailleurs en France, on peut atteindre même des temps d'attente de l'ordre de 3 à 4 minutes.
Dans le cas où personne ne viendrait, c'est-à-dire qu'il se passerait quoi? La personne doit aller au travail, elle ne peut pas permettre d'être en retard, non?
Évidemment, on a pensé à ça. C'est vrai que c'est une des premières choses peut venir en tête quand on se dit on se positionne à un arrêt et puis on fait notre demande et on attend. Alors comme le mentionnait Loïs, en effet, on est aujourd'hui sur une fréquence de passage qui est très rapide, qui ressemble à celle d'un TER finalement.
Oui.
Et Covoit ici, en fait, travaille avec des taxis, des VTC locaux et garantit toutes les prises en charge, que ce soit à l'aller comme au retour en
et
tant
cela
que
gratuitement
passager.
Pour le
gratuitement,
passage.
Évidemment, tu fais bien de le préciser. Chaque prise en charge est garantie. Donc en fait, quand un passager fait sa demande à un arrêt, il va avoir sur son téléphone une estimation de son temps d'attente. Donc, ça peut être une minute, 2 minutes, 7 minutes, 10 minutes.
Ouais.
Il sait que dans tous les cas, il va être pris en charge parce que nous, au bout de quelques minutes, s'il n'y a pas de conducteur de la communauté qui est à proximité et qui a été notifié,
eh bien,
on envoie un taxi, un VTC, qui vient chercher le passager qui l'emmène.
Et ça, automatiquement.
Alors, c'est géré par notre équipe d'assistance téléphonique.
Ah, faut que la personne contacte.
Non, passager n'a rien à faire pour le coup. Il se laisse porter à partir du moment où il a validé sa demande. C'est l'assistance Ecov, donc l'assistance Covoit ici, qui prend le relais. Et donc, ce sont des vraies personnes au bout du fil. Ce ne sont pas des robots. Ce sont nos collègues Solène et Maxime qui sont au bout du fil et qui vont appeler le passager pour demander s'il a besoin d'une solution garantie. Parce qu'il est possible que finalement le passager préfère prendre sa voiture ou venir en transport en commun. À Barentin, il y a le train notamment. Voilà. Donc, l'assistance s'assure que le passager a besoin d'une garantie départ. Et si c'est le cas, c'est l'assistance qui déclenche la garantie. Et le passager n'a rien à faire. Il est pris en charge et il est déposé à son arrêt d'arrivée.
Et donc, tu fais bien de le préciser, c'est des humains qui sont encore au téléphone, mais pas encore d'intelligence artificielle.
Non, Solène et Maxime sont très sympas. Ils sont très appréciés de nos usagers, d'ailleurs.
Dites-moi, j'imagine, vous savez, tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec les téléphones portables, la technologie, les smartphones. Pour quelqu'un qui ne saurait pas comment se débrouiller ou utiliser une application Covoit ici ou quelconque autre application d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres moyens permettant d'accéder au service?
Tout à fait. Alors, pour les conducteurs, il est possible de récupérer des passagers sur son trajet rien qu'en regardant les demandes sur les panneaux lumineux qui sont en bord de route, que mentionnait Loïs tout à l'heure. C'est une manière d'utiliser le service. C'est pas la manière la plus optimale, entre guillemets, parce que finalement, c'est en proposant leur trajet sur l'application que les conducteurs font fonctionner le service. C'est eux, finalement, qui créent la ligne, en fait, en proposant leur trajet. Donc, le mieux est de se géolocaliser, entre guillemets, donc de déclarer son trajet en partant de chez soi ou de son lieu de travail. Mais voilà, il y a aussi la possibilité, si on n'a plus de place sur son téléphone, qu'on n'a plus de batterie, voilà, on peut aussi juste récupérer un passager.
Quelque chose qui m'arrive souvent.
Moi aussi. On peut aussi juste récupérer un passager parce qu'on a vu la demande sur le panneau lumineux. Pour les passagers, il y a une volonté, quand on a lancé le service, de ne pas étendre la fracture numérique et donc de laisser accès au service à des personnes qui n'auraient pas de smartphone ou qui n'en auraient pas l'usage. Et donc, il est possible de faire sa demande de trajet par SMS. Et donc, dans ce cas-là, tout est indiqué au niveau de nos arrêts. Il suffit d'envoyer un code de destination. Donc, imaginons que vous êtes à Rouen, au niveau du Rouen-Orléans, par exemple, que vous voulez aller à Val-de-Reuil, eh bien, vous avez un code de destination qui vous permet de demander un trajet jusqu'à Val-de-Reuil. Et vous avez un numéro de téléphone auquel vous envoyez ce code. Ça ressemble finalement un petit peu à comme si on prenait un ticket de bus.
Ouais. Il est gratuit, ce SMS, ou il est surtaxé?
Il est gratuit.
D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler combien il y a d'arrêts à Rouen, où on les trouve et où est-ce qu'on va pour chaque arrêt?
Alors, il y a 3 arrêts pour chacune des lignes. Ouais. Commençons par la ligne Rouen vers Val-de-Reuil, qui est la première qu'on a lancée. Il y a 2 arrêts à Rouen, donc il y en a un au niveau de l'arrêt de Théor-Orléans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Covoitis-Rouen-Orléans. Ouais. Il y en a un au niveau du Zénith, qui s'appelle Covoitis-Rouen-Zénith. Et à Val-de-Reuil, donc dans la zone d'activité, il y en a un aussi qui est au niveau du rond-point des Pommiers, comme il est appelé, au niveau de la station hydrogène, côté de la rue des Clouets. Donc, à chaque fois, on fait attention à la multimodalité. Donc, à chaque fois, il y a des arrêts de bus proches de nos arrêts.
C'est un point que j'allais aborder avec notamment tout ce qui est la mise en accessibilité, mais j'y reviendrai, plus largement après.
Pour la ligne de Barentin, du coup, celle du Nord que récente, qu'on a ouverte en fin d'année dernière, il y a deux arrêts à Barentin. Un au niveau du parking Lucibel, qui est plutôt au nord de la commune, boulevard de Barendorf. Et il y en a un au niveau de la gare de Barentin, sur la grande route qui descend, juste en face de la gare. Et pour l'arrêt de cette ligne qui est à Rouen, il est au niveau de Pasteur, juste à côté de la fac.
Parlons stat, j'ai envie de dire. Alors, où est-ce qu'on en est avant d'attaquer les choses de manière un peu plus profonde, si l'on peut dire? Au niveau de la première ligne, celle qui a été lancée, donc la plus ancienne. Donc, elle a été lancée, je crois que vous avez fêté l'anniversaire il y a peu d'ailleurs, ça fait un an qu'elle a été lancée, hein, c'est ça?
Exactement, on a fêté l'anniversaire le 28 juin à Louviers, dans les locaux de l'Aglo, Senneur.
Et donc, à partir de là, maintenant, vous avez un recul sur tout au moins une année, donc de septembre à juin, parce que moi, on est sous les grandes vacances, en fait. Qu'est-ce que ça donne en termes de fréquentation par rapport à des objectifs que vous étiez lancés?
Très bonne question. Cette première ligne de covoiturage, donc Rouen-Val-de-Reuil, on est très contents puisque ça y est, on peut enfin dire que l'usage décolle sur nos lignes. Voilà, particulièrement ces 2 derniers trimestres, on a vraiment observé un vrai bond en avant et on a fait x4 en termes d'usage entre la fin d'année 2022 et aujourd'hui. Ah. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc voilà, donc vraiment, on a une bonne offre de conducteurs. Les passagers commencent vraiment à se lancer. On a aussi pas mal de conducteurs qui commencent à se convertir, entre guillemets, et passer du siège conducteur à passager ou tout du moins un usage un petit peu hybride mixte, puisque souvent, on a l'habitude de dire... Les gens ont un petit peu dans l'esprit que c'est soit on est conducteur, soit on est complètement passager, alors qu'en fait, on peut complètement faire les deux, alterner, faire ça de temps en temps en tant que passager, vraiment on est plus flexible que d'habitude. Donc voilà, on observe ça sur nos lignes.
Mais par exemple, c'est un détail, mais parce que la question me vient comme ça, mais par exemple, contrairement à Blablacar ou même ce qu'on voit sur Blabladeli, même de manière différente, on peut pas noter les gens, mettre des avis, parce qu'il y en a qui sont de manière, ils se sentent plus sécurisés en regardant les profils de monter avec telle ou telle personne. On ne sait pas forcément avec qui on monte de prime abord, imagine, sur Covoiturage.
Oui, alors je laisserai Justine compléter après. Alors sur ce sujet des avis, voilà, on sera preneur des retours de nos usagers. On n'est pas complètement fermé à l'idée de peut-être mettre ça en place un jour. Pour l'instant, c'est pas envisagé.
Moi, c'est quelque chose qui revient souvent. Des femmes qui me disent, mais moi, je veux que voyager avec des femmes. D'ailleurs, il y a un autre acteur qui est en train de se lancer aussi à Rouen sur ce créneau-là qui s'appelle Drive Lady, qui veut proposer dans l'agglomération rouennaise que des covoiturages donc entre femmes pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'elles estiment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez potentiellement étudié ou est-ce que vous n'avez pas de retour par rapport à ça?
Alors, c'est des choses qu'on a à la fois étudiées, enfin, qu'on continue d'étudier à travers les retours de nos usagers. Et pour l'instant, c'est assez mixte. En fait, on a des retours qui sont assez variés. Effectivement, bah, bien sûr, on a des personnes, des femmes notamment, qui nous disent être plus rassurées, voilà, pour covoiturer avec d'autres femmes. Et en même temps, on a parfois des retours de gens qui, voilà, qui sont plutôt en confiance. Et donc, on passe cet a priori-là. Et dans d'autres cas de figure, je pense notamment du côté de Brocéliande, où on avait eu un retour d'une conductrice qui disait que d'habitude, en autostop, elle prendrait pas quelqu'un en voiture. Mais que là, le fait de voir un dispositif comme les lignes de covoiturage avec des vrais arrêts organisés par la collectivité, ça avait quelque chose de vraiment rassurant pour elle.
Parce que c'est un contrat, voilà, c'est un contrat de transport, hein, donc il y a forcément des assurances.
C'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que pour les passagers, quelqu'un qui est en attente à un arrêt, en fait, va avoir plusieurs conducteurs qui vont être notifiés pour sa demande. Et donc, le passager n'a aucune obligation, entre guillemets, de monter en voiture avec le premier conducteur ou la première conductrice qui s'arrête.
Il est en droit de refuser.
Exactement. Il est en droit de refuser s'il ne le sent pas, s'il ne se sent pas à l'aise. Il n'est pas obligé de monter. On met à disposition aussi de nos usagers un kit de bienvenue lorsqu'ils s'inscrivent.
Et dans ce kit de bienvenue,
il y a notamment un macaron. Alors, pas celui qui se mange. Je sais que les Rouennais adorent ça. Pas celui qui se mange un macaron électrostatique, enfin, voilà, qu'on met sur le pare-brise avant droit du conducteur, de son véhicule, afin que lorsque le conducteur arrête à l'arrêt pour récupérer le passager peut être rassuré de voir que il y a la petite vignette qu'on voit ici. On fait partie de la même communauté, il y a ce sentiment d'appartenance, donc ça peut venir rassurer. Et puis, au-delà de ça, une fois en voiture, il y a une possibilité pour les passagers de contacter l'assistance. Ils ont à tout moment...
En voiture,
c'est ça. En fait, il y a une validation de la prise en charge qui se fait. Donc, quand le passager monte en voiture, il indique qu'il est monté à bord. Avec la géolocalisation, il nous indique qu'il est monté avec tel conducteur qui lui est proposé sur son écran. Et nous, je vous parlais de l'assistance tout à l'heure de Solène et Maxime.
Ouais.
On est au courant de qui est monté avec qui. Enfin, voilà, on est au courant de chaque trajet. On sait que le passager a été pris en charge. On sait avec qui. On a la plaque d'immatriculation. Donc voilà, on est en mesure, si vraiment il se passe quelque chose, d'activer des choses. Et le passager, voilà, peut appeler l'assistance, contacter l'assistance par message, etc. pendant la part chat, par email. Et voilà, depuis qu'on lance des lignes de covoiturage depuis 2015, 2016. En tout cas, on nous a jamais remonté de mes aventures. Donc on croise les doigts. Mais c'est aussi pour ça qu'on développe le sentiment de confiance dans la communauté. C'est aussi pour ça qu'on parle de communauté de covoitureurs, covoitici. C'est que c'est pas juste une appli.
On va y revenir. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est pas juste une appli. On partage quelque chose, on partage des valeurs, on se rencontre. Je mentionnais tout à l'heure des afterwork. Voilà, on construit le service ensemble, en fait, entre covoitureurs. Donc là, ça donne confiance aussi. En tout cas, c'est vraiment pas le premier retour que nous font les gens. Ils n'ont
pas
peur.
Je vais revenir sur l'aspect statistique parce que j'ai un peu divagué. On peut considérer que je prendrai le plan global après sur la société Ecov, mais sur Romans et l'agglomération, la métropole, il y a combien de conducteurs vous êtes ici?
Alors, aujourd'hui, on est environ à 250, si je ne me trompe pas, conducteurs différents qui déclarent des trajets sur les lignes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos lignes, elles fonctionnent d'une manière où on doit d'abord constituer une offre de conducteurs.
D'accord.
Pour pouvoir assurer des bons temps d'attente à nos passagers.
Ouais.
Et en fait, on estime qu'il nous faut à peu près 12 conducteurs par heure qui participent à la ligne pour assurer un temps d'attente proche de 5 minutes. Donc, ouais. Par exemple, sur la ligne Rouen-Val-de-Reuil, ça fonctionne très bien grâce à tous les conducteurs qui sont géolocalisés. Et sur Barentin, ça a très, très bien démarré. Et donc, voilà, on n'est pas encore tout à fait au niveau qu'on vise, mais ça a très, très bien démarré. Donc, on est hyper confiants.
Et alors, vous avez combien de passagers par jour qui utilisent le service sur la première ligne? La deuxième, on y reviendra, c'est un peu différent.
Oui, c'est plus différent parce qu'elle est plus récente.
Ouais.
Alors, sur les trajets passagers, aujourd'hui, on est à peu près à 500 trajets passagers par mois,
ouais,
qui covoiturent. Donc voilà, ça a bien évolué,
ouais.
Et on est vraiment content de ces chiffres-là au regard du potentiel de la ligne.
Qui était à 1300, parce que je crois que c'était ça, le potentiel.
Oui, c'est ça,
le
1000
potentiel
si on regarde uniquement les passagers.
Ouais, c'est pas mal, hein. En termes de plan, c'est pas mal, on est quasiment presque à la moitié.
Alors, je relativise aussi,
oui,
parce que on est sur des trajets passagers, donc on n'est pas sur le nombre de passagers différents qui covoiturent, mais c'est un indicateur qui est qui est vraiment très bon. On estime que voilà, on a atteint 10-15% de notre cible totale de passagers différents qui font des demandes de covoiturage. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas du tout au bout de ce qu'on peut atteindre. Et nos lignes, en fait, on sait qu'elles ont un démarrage qui est lent. Et en fait, à un moment donné, ça part et c'est vraiment exponentiel. Et on attire de plus en plus de monde parce que ça crée un effet boule de neige, un bouche à oreille.
Pour dire un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, vu qu'on a une bonne offre conducteur, comme disait Louis, on a suffisamment de conducteurs qui proposent des trajets, on en a toujours besoin de plus. Parce que plus il y a de conducteurs qui proposent des trajets, plus le temps d'attente pour les passagers est court. Et voilà, qui sait, un jour, on aura peut-être une fréquence métro entre Barentin et Rouen, ou une fréquence métro entre Rouen et Val-de-Reuil. N'ayons pas peur de rêver. On sait qu'il y a un potentiel. Il y a qu'à regarder les voitures autour de nous. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont seules au volant, qui sont autosolistes. Et aujourd'hui,
je te coupe parce que c'est vraiment important. Tant que j'y pense, est-ce que pour vous deux, est-ce que l'autosolisme est un fléau qu'il faut combattre?
Oui. Ouais. C'est un mot qu'il nous faut définir.
Voilà.
Et parce qu'il est encore trop peu connu. Et pourtant, c'est une pratique qu'on vit tous les jours, ou en tout cas dont on est témoin. Voilà, il suffit d'être de regarder autour de soi et finalement assez rapidement, on se regarde dans le blanc des yeux et on est tout seul, tous dans nos voitures. C'est vraiment même la bataille des COV, c'est que on souhaite augmenter le taux d'occupation de nos véhicules. Ouais. Aujourd'hui, on est sur un taux d'occupation en France. Alors, dis-moi, Loïs, si je me trompe, parce que j'hésite toujours entre les deux, on est à un taux d'occupation de 1,1.
Ouais, c'est ça.
De nos véhicules, sauf que dans les véhicules.
C'est même 1,05, c'est-à-dire que c'est un peu augmenté.
C'est ça, oui. Dans nos véhicules, il y a 5 places. Et donc, voilà, l'autosolisme, c'est ça, c'est un vrai fléau, comme tu le dis, parce qu'on a pris l'habitude de prendre nos voitures tout seul.
Ouais.
Alors qu'il y a 4 sièges libres dedans. Et finalement, c'est du gâchis. Ça, c'est assez frappant aussi de mettre d'autres noms dessus parce que on est en train de gaspiller de l'essence, finalement, du pétrole, et on sait qu'un jour, on va en manquer. Donc, c'est un vrai fléau auquel il faut s'attaquer aujourd'hui. Et les lignes de covoiturage, et comme tous les autres opérateurs aussi de covoiturage, viennent diminuer cette pratique qu'est l'autosolisme. Et nous, on aime bien dire que l'autosolisme, ça n'est pas une maladie, mais ça se soigne.
Ouais.
Et d'ailleurs, aussi... Petite phrase que vous pouvez retrouver dans notre vidéo promo qui est sortie récemment sur le compte YouTube Covoit ici. On a fait une petite vidéo marrante là-dessus.
Ouais.
Parlons d'autosolisme et battons cet autosolisme.
Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. On va faire ça comme ça. Ça va être le moment un petit peu marrant. Je vais me mettre dans le rôle de quelqu'un qui est très malade de l'autosolisme. Et donc, vous devez essayer, dans tes termes, de me soigner. C'est en fait des remarques, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais jouer ça volontairement, parce que c'est des remarques, en fait, que j'entends dans mon parcours et qu'on a même adressé au podcast normand, notamment sur un des réseaux sociaux les moins bienveillants du monde, qui est Twitter, où là, forcément, c'est très tendu et on n'a pas fait toujours... on n'a pas eu des commentaires très bienveillants à l'égard de ce que je peux représenter ou à l'égard de ce que représente le covoiturage en général. Et alors, par exemple, disons qu'il y a beaucoup de gens donc, qui ont un esprit un petit peu... On vit tous forcément des covoiturages où les gens forcément ne parlent pas beaucoup. Et se retrouver dans le voiture d'autrui, on parlera des compétences au niveau de la conduite plus tard, mais je veux dire, quand on est dans la voiture d'autrui et que ça ne parle pas beaucoup, on considère la voiture comme une extension de son domicile, on aime bien être tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour essayer de... d'un peu faire évoluer les choses vers un semblant de solidarité, moins d'autosolidarité.
Ouais. Ben, déjà, il faut essayer de se déculpabiliser, se dire que c'est normal que ça prenne du temps et que ce soit difficile. On s'est tellement habitué depuis de nombreuses années à utiliser notre voiture pour même des tout petits trajets, mais en fait, il faut le dire, la voiture, c'est confortable. Quand il fait froid dehors, on est bien dans la voiture.
J'aime bien écouter ma musique tout seul. Et puis, mes goûts musicaux ne sont peut-être pas universels.
C'est ma bulle d'oxygène. Enfin, voilà. C'est vraiment souvent les arguments qui reviennent. Et en fait, c'est parce qu'on s'est habitué. Et c'est dur de changer une habitude. Ça prend du temps. Et donc, nous, chez Cov et avec les lignes Covoit ici, on incite vraiment les gens à tester, à se lancer une première fois. Et ils verront, en fait, ça se passe très bien. Vous, auditeurs du podcast Normand, essayez le covoiturage. Si vous êtes sur nos lignes, covoit ici, essayez. Et en fait, vous trouverez même plus d'avantages que ce que vous imaginiez. Il y a un témoignage d'un usager que j'aime beaucoup reprendre, qui est que, à la base, il s'était lancé sur les lignes, il avait téléchargé l'application et puis il avait commencé à proposer ses trajets en tant que conducteur.
le service venait de se lancer, il était un peu déçu parce qu'il voyait pas beaucoup de passagers. Donc, plutôt que de lamenter sur sa situation, il s'est dit, en fait, s'il n'y a pas de passagers, c'est peut-être que c'est à mon tour de me lancer en tant que passager. Donc, il s'est lancé en tant que passager. Et en testant une première fois, il s'est rendu compte que c'était super, qu'il a été pris en charge en quelques minutes. Il a rencontré quelqu'un de super intéressant. Ils ont discuté pendant tout le trajet. Le trajet est passé à toute vitesse. Et il faut le dire, les embouteillages, c'est que voilà, les Rouennais connaîtront bien ce sujet.
Oui.
En fait, c'est beaucoup moins embêtant quand on est sur le siège passager. Donc voilà, cet avantage-là, il ne l'avait pas imaginé. Et un autre avantage qu'il mettait en avant, c'est aussi le fait que, vu qu'il habite à quelques minutes à pied de son arrêt, de l'arrêt le plus proche de chez lui, il arrive chez lui à pied, en train du travail. Et ça, c'est super agréable.
Ouais.
Et puis, il est content parce que sa famille est contente parce qu'il rentre un petit peu moins tard le soir. Parce que du coup, il rentre aussi dans le créneau qu'il arrange, mais le créneau qui est le créneau d'ouverture des lignes de covoiturage. Donc, en fait, il a découvert plus d'avantages que ce qu'il a imaginé. Et en fait, c'est ça qui est difficile dans le changement d'habitude. Et on retrouvera ça dans tout. Vous aurez à peu près les mêmes arguments de quelqu'un qui est viandard et à qui on va dire qu'il faut réduire sa consommation de viande. Forcément, si on lui dit « t'arrêtes tout du jour au lendemain », il va s'imaginer le pire. Il va se dire « mais je vais avoir faim, je vais manger que des graines ». Ben non. En fait, le végétarisme, c'est pas ça. Il y a beaucoup, c'est l'occasion de découvrir plein d'aliments, d'avoir une alimentation plus saine, de réduire son budget alimentation. Et en fait, il faut y aller pas par une fois par mois au début, un trajet en tant que passager, une fois par semaine. Et finalement, la plupart de l'usage qu'on observe sur nos lignes, c'est des gens qui testent au début, parfois parce qu'ils ont une jambe dans le plâtre, parfois parce que leur voiture est au garage, ou parfois juste comme cet usager que je mentionnais, ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de passagers et que finalement, c'était à eux aussi de se lancer.
Oui, parce que finalement, tu es d'accord sur une chose, il y a 95% d'autosolistes, mais personne n'aime les bouchons. J'ai jamais entendu une seule personne qui m'a déclaré qu'elle adorait être dans les bouchons, finalement.
Non, c'est clair. Je pense qu'il y a plusieurs types d'usagers, je pense, et différentes manières de les convaincre. Il y en a qui vont vraiment être convaincus par le côté partage. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans nos communications, de mettre en avant plutôt ce que l'usager va gagner, découvrir, plutôt que de focaliser sur ce à quoi il renonce, parce que c'est quand même, faut le dire, une forme de renonciation d'être tout seul dans sa voiture, comme on le disait. Et vraiment, voilà, il y a des gens qui vont être plus touchés par le côté convivialité, partage avec quelqu'un. Il y en a qui vont être plus touchés par le côté flexibilité du parcours covoit ici, le fait que ça soit pratique, le fait de pas dépendre de quelqu'un d'autre pour partir. Voilà, il y en a qui vont être convaincus par le côté sentiment d'appartenance à un projet et le côté engagement
et local.
Voilà, et côté projet local, ils vont se sentir engagés. C'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de co-construire le service avec les usagers sur, par exemple, typiquement, un exemple très concret. On a ouvert la ligne avec des horaires d'ouverture plus restreints dans un premier temps. Et on peut le dire maintenant, puisque ça a été validé et que ça va se lancer à la rentrée, et ces horaires vont être modifiés. Ce le sont déjà, du coup, vu qu'on est en septembre.
Ouais.
Et c'est grâce au retour de nos usagers qui nous ont dit, en fait, on souhaiterait que ça ouvre plus tôt le soir, etc. Et donc là, on a pu faire des adaptations et certains usagers se sentent vraiment appartenir au projet. Ils sont contents d'y contribuer. Il y en a qu'on va convaincre aussi de cette manière-là.
Mais justement, je voudrais revenir. Et donc là, c'est plus ton rôle, Justine, puisque tu es développeuse de communauté. En fait, c'est ce que vous avez répété plusieurs fois, un sentiment d'appartenance. C'est ça qui est d'ailleurs un peu, il me semble, différent par rapport à d'autres acteurs de covoiturage, où certains d'ailleurs, puisque ça aussi je l'ai déjà entendu, ça se peuvent construire un peu leur entreprise un peu contre la vie en fait des usagers dans certains cas. C'est pas un mystère. Finalement, comment est née cette démarche d'ancrage finalement local, puisque toi-même tu n'es pas de Rouen d'ailleurs et tu te déplaces sur Rouen pour animer aussi la communauté covoite ici à Rouen.
Exactement. Alors moi, je viens de pas très très loin. Tu mentionnais tout à l'heure la liaison à Évreux. J'ai fait toutes mes études, collège, lycée et DUT à Évreux. Ouais. Et j'ai justement pas mal covoituré sur mes années étudiantes entre Évreux et Rouen.
Ou pas trop.
Je continue à covoiturer parce que je n'ai moi-même pas de voiture. J'en ai pas besoin. Je touche du bois. J'espère pouvoir m'en passer le plus longtemps possible. J'ai la chance de travailler d'habiter proche de mon lieu de travail. Et donc, j'ai pu éprouver cette difficulté de déplacement entre Rouen et Évreux. Et c'est vrai que le covoiturage m'a bien sauvé la mise à l'époque. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis embauchée chez Ecov depuis la fin de l'été 2020. Et donc, je travaille sur plusieurs projets. Exactement. J'ai été Exactement, j'ai été embauchée juste après le confinement. Et donc, j'ai été embauchée en tant que développeuse de communauté, à la base sur une seule ligne de covoiturage. Et puis, peu à peu, quand cette première ligne a eu pas mal de notoriété, a commencé à s'auto, voilà, pas non plus à s'auto-gérer, parce qu'il y a toujours besoin de plus de notoriété, de continuer à animer la communauté, etc. Mais il y a besoin de mettre, de lancer une dynamique. Et ensuite, on essaye de créer une
du lien social.
C'est ça, on essaye de créer du lien social entre les gens et même d'identifier des ambassadeurs dès le début quand on lance une ligne, parce que l'objectif, c'est aussi que finalement, cette communauté, à un moment, s'autogère, soit par la motivation, l'entrain de certains usagers qui vont proposer un after work ou qui vont faire remonter des retours.
Comment vous déterminez ces ambassadeurs alors?
Il y a une bonne partie de feeling, en fait.
D'accord.
Souvent, c'est ce qu'on appelle les early adopters pour un produit ou un service. En fait, c'est les gens qui sont inscrits dès le début, qui attendaient qu'il y ait un service de covoiturage qui se lance.
Early adopters, va falloir. Hein.
Alors, early adopters, ça va être premiers usagers, voilà. C'est ça. Les gens qui s'inscrivent dès le début sur nos lignes. Il y a souvent des gens, tout début, qui nous disent « j'attendais depuis longtemps qu'il y ait une liaison qui se fasse ». Alors, ils ne connaissent pas les lignes de covoiturage à la base, parce que c'est encore assez récent. Mais ils sont contents qu'on vienne proposer une solution de mobilité complémentaire au réseau de transport en commun existant. Et donc, voilà, on peut s'appuyer en mesure sur ces ambassadeurs pour animer la communauté et continuer à améliorer le service. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à animer, à développer d'autres communautés sur d'autres lignes de covoiturage en France, notamment celle de Rouen. Et donc, on est assez rapidement, en fait, quand on a commencé à lancer des lignes de covoiturage chez Ecov, on est venu s'appuyer sur ces communautés d'usagers, parce que finalement, c'est eux qui connaissent le mieux le service. Donc, pourquoi se priver de leur demander à eux comment améliorer le service, comment se sont passés leurs trajets. On est très à l'écoute, on propose des appels qualitatifs, on propose des appels avec nos usagers, on propose des rencontres. Et c'est aussi pour nourrir ce sentiment d'appartenance dont je parlais. Voilà, c'est ça, j'ai mentionné plusieurs fois les afterwork, à peu près une fois par mois, une fois tous les deux mois.
Ici à Rouen ?
C'est oui, que ce soit à Rouen ou dans d'autres villes que
d'accord.
Où on développe des lignes de covoiturage, on organise des moments de rencontre entre covoitureurs. Alors, c'est tout simple. On propose juste de se rencontrer dans un bar, comme on l'avait fait au bar de l'Absinthe il y a quelques temps. Ouais. Et ensuite, les gens viennent. Ça peut faire peur au début parce qu'on se dit, oh là là, mais je connais personne, c'est des inconnus. Et en fait, justement, c'est ce sentiment d'appartenance et ce point commun qui va venir rallier les gens, parce que les gens sont contents de venir découvrir, rencontrer des nouvelles personnes, faire leur retour sur le service, poser leurs questions à des vraies personnes. Voilà, c'est pas juste un chatbot. Faut que j'arrête avec les anglicismes. C'est pas juste, c'est juste une messagerie ou des robots. Il y a une vraie développeuse de communauté ou un vrai développeur de communauté sur chaque territoire qui est disponible par téléphone, par email et même en vrai lorsque je viens du coup.
Sur l'aspect social, on est quand même, on va pas se mentir, dans une société ou même par rapport à une certaine époque, mais, par exemple, sans parler de covoiturage spécifiquement, mais par exemple, ma mère me parlait qu'à une époque, quand on était dans le train, en fait, tout le monde se parlait. Forcément, aujourd'hui, les gens ont tendance forcément un peu moins à échanger, à moins se dire bonjour. C'est pas plus dur de développer ce genre d'implication dans cette circonstance où on se méfie un peu, on se regarde en chien de faïence parfois?
Je pense qu'on n'a pas trop d'éléments de comparaison, parce que le covoiturage, pour le coup, à l'époque, n'en était même pas question.
Ouais. Pas sous cette forme, en tout cas. Ça existait, mais de manière informelle.
Voilà.
On m'a fait la remarque récemment qu'apparemment, à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors je pense que les gens parlaient peut-être effectivement plus entre eux, etc., faisaient la remarque que les gens, à l'époque, peut-être lisaient, étaient la tête dans leur journal, dans le métro, et que finalement, c'était pas si différent, peut-être, autant qu'on le pensait. Mais quand même, je trouve que t'as raison, ça se ressent quand même qu'on est peut-être un petit peu plus dans notre bulle, donc... Je pense qu'il s'agit d'aider les gens à reprendre un petit peu confiance et de les refaire réexpérimenter peut-être le partage.
Ouais.
Un peu comme si on oubliait un peu ce que ça peut nous faire vivre et à quel point ça peut être un moment chouette, en fait.
Oui, en ressortant des after-work ou des rencontres communautés, les gens sont contents, ils ont le sourire, ils ont la pêche, ils repartent avec des réponses à leurs questions et finalement, c'est peut-être un truc qui manquait aussi.
Et justement, sur le sujet communauté, on voit vraiment que même au-delà de simplement des rencontres entre usagers d'une ligne de covoiturage, ça peut aller même beaucoup plus loin et même créer des amitiés, en fait, entre les gens, vraiment. On a, par exemple, des exemples sur notre ligne à Lyon.
Ouais, j'en sais quelque chose aussi.
Mais donc, vraiment, où on a une super communauté d'usagers à Lyon, aussi parce que c'est la plus ancienne.
Ouais.
Et on a notamment un usager qui, l'hiver dernier, je crois, alors lui, il est moniteur de ski et avait proposé à plusieurs usagers de la ligne Lane de partir un week-end, faire une session de ski ensemble. Et ils étaient tous partis, donc complètement indépendamment, en fait, de la ligne Lane et du service de covoiturage. Ouais. Donc, comme quoi, vraiment, ça peut vraiment créer du lien. Des liens assez forts, quoi.
Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on prend du temps pour faire de l'animation de communauté, parce qu'on ne cherche pas juste à avoir des gros chiffres ou à exploser les scores de covoiturage. En fait, nous, on cherche vraiment du report modal. Le report modal, c'est fait de changer de mode de transport et d'aider. On cherche à amener les gens à aller de la voiture individuelle à, alors, le covoiturage, mais aussi, évidemment, on est dans la même équipe avec tous les autres transports en commun. On cherche vraiment le report modal et le changement d'habitude sur le long terme. C'est ça qui va aider. C'est en ça que l'animation de communauté, la création d'une communauté et son animation vont permettre d'ancrer en fait ce réflexe, ces habitudes sur le long terme. Ouais. Parce que finalement, c'est pas juste une appli qu'on voit ici. C'est une communauté d'usagers. On sait que derrière, il y a des vrais gens. Il y a l'assistance téléphonique avec Maxime et Soline, et Solène, Justine, développeuse de communauté. Enfin, voilà, il y avait des vrais humains derrière, un projet local, solidaire, qui est soutenu par les collectivités. Et c'est ça qui va motiver les gens à rester finalement et pas juste tester un jour et puis ne jamais se lancer.
Ça me rappelle aussi pleinement, et là je prêche ma paroisse deux secondes, mais c'est aussi, parce que c'est ce que tu disais, ce que vous disiez toutes les deux d'ailleurs, j'ai créé aussi des amitiés via le covoiturage, j'ai même rencontré certains de mes meilleurs amis, qui sont mes meilleurs amis actuellement, grâce au covoiturage, et c'est quelque chose qui... Le covoiturage, bien sûr, bon, on l'a entendu dire des milliers de fois dans le podcast Normand, donc ce ne sera pas une nouveauté, mais je vais le refaire ici. C'est du bon sens, c'est vecteur de lien social, c'est moins bouchon, on réduit son empreinte carbone. Il y a plein d'éléments en soi positifs, c'est juste l'aspect, en fait, extension du domicile, de la voiture personnelle, là où ça pêche un peu, puisqu'on est chez soi dans sa voiture et on a forcément envie d'y rester encore quelques minutes de plus avant d'aller au travail. Mais...
Pour donner une anecdote sur ce sujet, récemment, il y a une usagère qui m'a dit qu'elle s'était inscrite au service parce qu'elle venait d'arriver dans la région et qu'elle ne connaissait personne. Et elle s'est dit que le covoiturage pourrait l'aider à se faire des amis. Et c'est une très bonne idée parce que justement, vu que notre service est structuré en ligne de covoiturage, ben vous allez rencontrer des gens du coin. Finalement, vous allez pouvoir rencontrer vos voisins ou rencontrer des personnes travaillant sur la même zone d'activité que vous. Et les trajets passent tellement plus vite quand on discute. Après, il n'y a aucune obligation de discuter. Hein. C'est comme sur d'autres applications. Oui. Tu vois, on s'en vite fait si la personne ne veut pas
écouter
discuter.
Ensemble le podcast Normand, par
exactement,
exemple.
Que nous recommandons.
Bah, non, puis franchement, alors oui, après moi, on le sait, j'ai à peu près tout vu en 800 covoiturage. J'ai vu l'aspect très positif, j'ai vu l'aspect ultra, enfin, dans quelques très rares cas, l'aspect... ultra négatif, même s'il y en a très peu par rapport, puisqu'on le rappelle, et je le rappelle à tort et à travers, que je ne suis pas représentatif du fait de mon nombre colossal de covoiturages, mais 99,9% des covoiturages se passent très bien.
Et surtout, ceux que tu as fait, c'est quand même assez représentatif, je trouve.
Comment ?
Surtout les trajets que tu as fait, je trouve que c'est quand même assez représentatif.
Oui. Bah, moi, je suis quelqu'un qui a à peu près... tout fait, c'est-à-dire j'ai fait du local, du national et j'ai même fait en faire à l'étranger. Donc non, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps et que finalement, alors après on va me dire oui mais ça vous va bien, mais je trouve que même dans les covoiturages les plus qui ont été les plus extraordinaires dans le moins bon sens du terme, finalement on en apprend une leçon de vie parce qu'au final on croise un peu un miroir de la société française, c'est-à-dire des humains. Forcément, il y a des gens qui vont bien, d'autres personnes qui vont pas bien. Tout ça nous rappelle que finalement, dans le bon comme dans le moins bon, on est tous des humains. Ouais. C'est un peu ça.
Et on parlait d'habitat clos qu'il était compliqué de partager.
Ouais.
Je trouve aussi qu'une fois qu'on se retrouve dans un covoiturage et qu'on s'y sent bien, c'est aussi un lieu de partage.
C'est ça.
On emporte.
Ouais. Mais alors... puisqu'on parle d'extension du domicile, pourquoi je viendrais chez toi, dans ta voiture, en quelque sorte. C'est ça. Mais pour partager. Finalement, on a tous quelque chose à partager.
C'est clair. Ça n'a pas de sens de ne pas partager quelque chose où il y a 4 sièges libres, tout simplement. Il faut, en fait, c'est beaucoup de bon sens, tu l'as dit tout à l'heure. On parlait du fait que être tout seul dans sa voiture, c'était du gâchis, mais finalement...
Ouais.
On n'a pas besoin de l'expliquer ou le définir, c'est clair pour tout le monde, c'est juste qu'on s'est habitué à cette situation et que voilà, si on repose les bases, On se rend compte que c'est pas si normal que ça, d'être tout seul dans sa voiture et qu'il y a des solutions qui existent, notamment sur le territoire rouennais.
Ouais.
Et puis, je souhaite rebondir sur ce que, sur ta question, c'est pourquoi je viendrais dans ta voiture, pour le partage notamment. Mais t'es pas obligé de venir en tant que passager dans d'un covoiturage tous les jours, quoi. Ça peut être déjà, pour commencer, 4 jours sur 5, je reste dans ma bulle parce que j'en ai besoin, que j'aime ça, que pour l'instant, c'est mon cocon. Et une fois par semaine, bah, je partage. Et déjà, c'est énorme, en fait.
Déjà, il faudrait remettre en place que même si effectivement il y avait ne serait-ce que la totalité des gens ne le feraient au moins qu'une fois par semaine, en fait, ça changerait complètement la vie. Je crois que même si une personne le ferait au moins une fois par semaine ou même une fois par mois, on aurait deux fois moins de bouffons. Ça serait totalement une révolution. Déjà.
C'est ça, mais 3 personnes dans une voiture au lieu de une, ça fait déjà 2 voitures en moins sur la route.
C'est ça.
Et si ça serait une révolution, moi j'ai envie de dire ça va être une révolution.
Ça l'est déjà un petit peu.
Ça l'est déjà.
C'est ce qu'il faut espérer et c'est des choses qui progressent. Alors, sans transition ou plus ou moins, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui est un peu moins joyeux, mais qu'il faut quand même traiter. Alors, dernièrement à Rouen, alors ça me fait sourire parce que moi je suis quelqu'un de très franc quand j'entends ça. Il y a une information qui a été révélée. Je dis révélé entre guillemets par le journal d'Elbeuf, parce qu'en fait, je ne l'ai pas appris via le journal d'Elbeuf, et c'est quelque chose qui est su depuis très 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 longtemps. Mais c'est les sujets liés à la dite fraude au covoiturage sur l'opérateur Klaxit, ou peut-être d'autres opérateurs, j'en sais rien. C'est en fait des personnes qui utilisaient 2 téléphones portables pour en fait simuler des trajets dans le but en fait d'empocher des subventions publiques, alors que bien sûr, c'était un covoiturage fantôme, il n'y avait personne. Mais comme en fait la métropole Rouen-Normandie et la région Via Nomade subventionnent en fait cet acteur de covoiturage principalement, bah, ça fait donc de l'argent public dans la poche de personnes qui proposent des covoiturages fantômes. Je sors d'une interview avec M. Laurent Bonnater, le maire de Caudebec-les-Elbeufs, qui dit qu'en gros, ce type de subventions allouées aux opérateurs de covoiturage, Get Klaxit ou d'autres, c'est du gâchis parce que c'est beaucoup de dépenses pour peu de recettes. Vous auriez quoi à répondre à ça?
Alors, sans vouloir prendre la défense de Klaxit dans un premier temps, mais je pense que...
Il ne s'agit pas de ça, c'est des opérateurs.
On est tous déjà dans une démarche, tous les acteurs du covoiturage que nous sommes, à essayer de faire mûrir le marché, ce secteur du covoiturage pour que ça se développe le plus possible. Voilà, même si effectivement c'est une part peut-être assez conséquente, une bonne part des covoiturages qui se font sur cette plateforme sont des vrais covoiturages. Ceci étant dit, effectivement, il y a cette problématique de la fraude. Ça a eu quand même l'avantage de réveiller ce sujet. On puisse chacun des acteurs du covoiturage aussi en faire un sujet de fond dans chacune de nos entreprises. Et là aussi, ça va nous faire mûrir en fait sur ce sujet-là. Après, sur le sujet des subventions, c'est vrai que forcément, à partir du moment où on a un appât du gain entre guillemets financier, ça va générer la fraude de façon assez automatiquement. La fraude, on l'observe dans différentes cas de figure. Donc là, le covoiturage, on l'a vu. On a aussi de la fraude dans du transport en commun.
Oui.
Aucun acteur du covoiturage n'est complètement à l'abri de la fraude. Après, sur nos lignes, en tout cas, on est quand même un peu moins visé par ça du fait de la structuration en ligne où on a des arrêts physiques uniquement à certains endroits. Contrairement à ce qui a pu se passer aussi sur cette plateforme de covoiturage, on est sur des trajets qui ne rentrent pas en concurrence avec les transports en commun. C'est-à-dire qu'on va se mettre vraiment là où il y a une complémentarité. Donc, on ne peut pas avoir de cas frauduleux, comme on a pu le voir, de trajets pendant les transports en commun qui sont dits être des trajets covoiturés alors que non. Donc ça, on est plutôt à l'abri de ça.
Dernière partie peut-être de cet entretien. Quelles sont vos perspectives de développement pour le futur ? En Normandie ou peut-être même ailleurs ou proche?
Très bonne question. Alors, on pourrait le prendre sur différents plans. Il y a tout d'abord les développements à l'échelle de la métropole de Rouen et des territoires voisins. Déjà, on a des projets d'évolution des caractéristiques de nos lignes actuelles. Donc, on parlait tout à l'heure des horaires, par exemple, de la ligne qu'on souhaite voir évoluer. À la rentrée, vous l'avez peut-être déjà vu, ou en tout cas, vous le verrez prochainement, on améliore le mobilier au niveau de nos arrêts. C'est aussi une manière de dire à nos usagers qu'on les considère, qu'il y a un petit peu plus de confort, d'accessibilité, de choses qui rendent visibles nos arrêts pour aussi attirer davantage de deux personnes. Donc ça, c'est vraiment pour nos arrêts existants. On envisage aussi des extensions de nos lignes actuelles, donc avec de nouveaux arrêts. Voilà, qui, donc, je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont déjà été étudiées et qui devraient voir le jour. Bon, ça a été étudié, donc je ne m'engage pas sur la mise en place, mais par exemple, avait été étudié un arrêt du côté de Louviers, par exemple, sur la ligne sud, et avait été étudié également un arrêt du côté de Yvetot sur la ligne nord. Et la ligne, initialement, était plutôt pensée dans une logique Yvetot-Barentin-Rouen. Et pour des questions de planning et de calendrier de déploiement, on a dû le faire d'abord sur l'axe Barentin-Rouen. Mais voilà, c'est des choses qu'on devrait voir se développer dans les mois ou dans les années à venir. On a aussi des échanges avec des territoires voisins. Je pense notamment du côté du Roumois, où c'est peut-être les échanges qui sont les plus avancés pour le moment. Et puis, la métropole de Rouen a une ambition forte sur le covoiturage, ne s'en cache pas jusqu'à maintenant. Et plutôt dans l'idée de développer un réseau plus structurant avec peut-être d'autres lignes, un vrai système covoiturage. Parce que c'est vrai que, nous, aujourd'hui, on a deux lignes sur le territoire. C'est un petit peu comme si on cherchait à faire connaître le bus avec uniquement deux lignes de bus sur toute la métropole de Rouen, si vous voulez. Donc, le jour où on a dizaines de lignes de covoiturage autour de la métropole, ça sera aussi beaucoup plus facile de générer un usage massif, en fait, de faire connaître ce type de mobilité.
Bientôt, vous prendrez un covoiturage covoit ici, comme vous prenez un théor aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup, mesdames, pour cet entretien. C'était super chouette. On se retrouvera bientôt pour un autre épisode. Et donc, en mot de la fin, puisque le mot de la fin revient toujours aux invités, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs que vous n'avez pas dit ?
On pourrait dire, c'est pour clôturer un petit peu sur Ecov et sa raison d'être, dire qu'on va tout faire pour faire de la voiture un transport collectif et que ça ne soit plus un simple habitat clos avec des sièges vides dedans. Ouvrons nos portes.
C'est ça. Faire en sorte qu'il soit aussi facile de covoiturer que d'aller prendre un théor ou un très bon bus.
Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Brian.
Et bien voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme tu le sais, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans 15 jours. À la prochaine dans le podcast Normand. Thank you.